Campus Lille, il est 6h.
Depuis sa création, la mission de l'association Positive est de défendre l'idée que le travail salarié comme entrepreneurial est l'étape nécessaire et préalable pour s'insérer socialement, économiquement et durablement dans la société. La mission de l'association est d'accompagner les personnes éloignées de l'emploi, quel que soit leur âge, leur genre ou leur parcours. Elle a organisé le jeudi 22 mai à Lille une cérémonie des Positive Awards Hauts-de-France. Rencontre avec Amélie, responsable régionale de l'association Positive.
Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur trois projets, donc cinq porteurs de projets, pour trois projets différents, puisqu'ils ont démontré une capacité de résilience, des initiatives intéressantes, des parcours inspirants. Et donc, c'est notre première cérémonie d'awards régionaux. Habituellement, on le faisait au national, mais là, on le fait en régional, et ils seront mis à l'honneur sur du national en 2026 pour nos 20 ans.
Vous êtes présent dans la région des Hauts-de-France ?
Sur la région des Hauts-de-France, nous avons 4 implantations, nous sommes 7, et les 4 implantations, c'est à Roubaix, à Lens, à Saint-Quentin et à Amiens.
Donc, c'est faire découvrir comment créer sa propre entreprise, c'est ça ?
Exactement. En fait, la moindre petite étincelle, la moindre petite idée peut être un sujet à creuser, à élaborer, et on va sécuriser le parcours de la personne en vérifiant qu'elle puisse continuer son projet, avancer dans son projet en toute sécurité, en toute connaissance de cause. Ce projet aboutira ou pas, mais en tout cas, la personne, elle aura remis en œuvre des savoir-faire et des savoir-être qui amélioreront son employabilité si jamais elle ne va pas jusqu'à l'immatriculation de son activité.
Et on n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études.
Non, bien sûr. Il faut avoir une envie, il faut avoir un degré d'autonomie plus ou moins élevé. Nous, on va s'adapter en fait aux besoins, aux compétences ou aux freins de la personne, que ce soit des freins numériques, que ce soit le temps aussi consacré au projet ou des freins personnels autres. On va s'adapter, mais pas besoin d'avoir de compétences au départ, si ce n'est des compétences techniques du métier la plupart du temps quand on veut se lancer.
Souvent, le plus difficile, c'est de faire le premier pas.
Oui, alors pour ça, nous faisons des actions de sensibilisation et d'explication de ce que c'est que l'entrepreneuriat, parce que parfois ça peut être un gros mot, où on peut se dire « oh là là, c'est pas pour moi ». Eh bien nous, chez Positive, nous allons auprès du public, vraiment qui ne nous attend pas. Ça peut être sur un marché, ça peut être dans l'immeuble où les gens habitent, ça peut être, évidemment lors de forums, mais là, les gens viennent pour une raison particulière. Mais ce qui nous intéresse, c'est aussi d'aller quand les personnes sont dans leur lieu habituel de vie, d'habitude de vie, et on va leur parler projet et leur ouvrir la porte. C'est surtout ça qui est important.
Quelles sont les principales difficultés que vous avez déjà rencontrées ?
Pour nos porteurs de projets, alors ça peut être l'accès au financement, qui peut être effectivement un peu compliqué, mais il y a aussi des projets qu'on peut commencer avec peu ou pas de moyens, quitte à leur donner une envergure qui va augmenter par la suite, mais pourquoi pas tester avec peu de moyens dans un premier temps. Ça, c'est un frein qui est souvent le plus conséquent. L'accès au local, quand on a besoin d'avoir une boutique, effectivement, ça peut être aussi une problématique. Et puis, on a l'organisation, souvent pour les familles monoparentales tenues par des femmes, où là, il y a des problématiques de garde, par exemple, pour les enfants, des choses comme ça.
Il doit y avoir aussi, je pense, l'étude de marché classique.
Oui, alors c'est pas forcément le premier pas. Nous, on va se concentrer dans un premier temps sur la personne. Vraiment sur sa situation, sur ses envies, ses besoins, ses compétences, les points où elle va manquer justement parfois de compétences ou de savoir-faire. Et on va vraiment s'atteler sur toute sa posture et déjà son envie, sa motivation. Donc c'est vraiment la première étape. Et l'étude de marché, on va la désacraliser, on va leur expliquer que c'est pas si compliqué que ça. Et qu'en fait, l'étude de marché, c'est du bon sens. Voilà, c'est de réfléchir à ce qu'on veut vendre, à qui, comment, à quel prix, et comment on va le faire pour que ça puisse déboucher sur quelque chose de viable, de rentable, et surtout de générer des revenus, parce que l'idée, c'est que la personne, évidemment, se sorte d'une situation de non-revenu ou de revenu précaire avec l'entrepreneuriat.
Quelle est la caractéristique du public que vous avez déjà accueilli ?
Alors, nous accueillons 60% de personnes qui habitent en quartier prioritaire de la politique de la ville. On s'attache à augmenter encore ce pourcentage puisque nous avons des outils adaptés à des personnes qui sont soit éloignées de l'emploi, soit qui ont des problématiques, comme on disait précédemment. Et nous sommes à peu près à 52% de femmes. Puisqu'il y a quand même effectivement beaucoup de femmes qui habitent aussi dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et qui ont envie d'être accompagnées. On a une trentaine, à peu près 30% de jeunes aussi, de moins de 30 ans, avec cette envie de générer de l'emploi par l'entrepreneuriat.
Si on a besoin d'informations sur votre association, où est-ce qu'on peut trouver ça ?
Nous avons un site qui est un site national, donc positive, positive.ngo. On peut avoir il y a un formulaire de contact et puis on peut venir évidemment dans toutes nos antennes, donc à Roubaix, à Amiens, à Saint-Quentin et à Lens. On nous trouve très facilement sur tous les moteurs de recherche sur Internet.
Cindy, lauréate au Positive Award Hauts-de-France.
J'ai créé il y a 11 ans déjà une pension qui s'appelle Kitty Dogs et compagnie. Et aujourd'hui, je suis dans un projet en fait tout nouveau qui s'appelle Pet-Sitter Pro, qui va permettre en fait de pouvoir mettre en relation les pensions professionnelles de garde d'animaux et les propriétaires d'animaux.
Vous avez été accompagnée durant ce projet ?
Oui, tout à fait, effectivement. J'ai été accompagnée par plusieurs acteurs, notamment Positif, qui a été très présent dans mon accompagnement, qui est toujours présent aussi en cas de besoin, enfin vraiment un simple appel, et puis il puisse répondre, que ce soit pour de la mise en relation, pour de l'accompagnement, pour des simples questions-réponses. Enfin vraiment, ils sont toujours là à l'écoute pour pouvoir nous soutenir et répondre à notre besoin.
À partir du moment où vous avez l'idée de créer, comment ça s'est passé ?
Alors, l'idée de créer, déjà, elle remonte à longtemps, parce qu'effectivement, d'où ma première entreprise en fait, de garde de chiens, je me suis rendu compte effectivement que depuis le Covid, les mentalités avaient changé. Et avant, les personnes cherchaient juste quelqu'un pour garder les animaux. Et après le Covid, il y a eu une vraie relation avec leur animal. Ils ont créé des liens super forts, limite comme si c'était leurs propres enfants. Et on a senti très rapidement en fait, le besoin de sécuriser la pension des animaux, du coup, pour avoir l'esprit tranquille. Donc, du coup, j'ai mûri le projet parce qu'il est passé de la simple garde d'animaux à un projet quand même beaucoup plus grand. J'avais besoin de me faire entourer, justement, pour pouvoir planifier un petit peu les choses. J'ai été incubée, et je le suis encore, mais pour très peu de temps à Euratechnologie. Et puis, j'ai rencontré Positif, en fait, à Euratechnologie, ce qui m'a permis aussi de pouvoir avancer progressivement sur les différents étapes de la création d'entreprise.
Et aujourd'hui, vous allez recevoir un prix.
Oui, effectivement, j'en suis vraiment très honorée et touchée. À savoir que dans le parcours d'un entrepreneur, avoir un peu de reconnaissance, c'est vraiment quelque chose d'important et de valorisant. Donc c'est avec un grand plaisir que je suis présente ici.
Valentin, lauréat au Positive Award Hauts-de-France.
Notre projet a commencé avec Positive, donc à Amiens. L'idée, c'était de commencer à comprendre comment on pouvait entreprendre et quelles démarches nous allions pouvoir élaborer ensemble et comment on pouvait construire le projet, en fait.
Donc, vous êtes parti d'une idée et ensuite, ils vous ont accompagné pour arriver jusqu'à la création.
Exactement, ils nous ont accompagnés dans le développement, dans la structuration de notre projet. Ils nous ont surtout fait rencontrer les bonnes personnes qui nous ont permis justement d'avancer.
Entre le moment où vous avez eu l'idée et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous décrire quelques étapes ?
Alors oui, en fait, déjà pour essayer de structurer un peu mon propos, notre projet, c'est un projet de transport et d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap. Donc, On est professionnel du médico-social à la base. Notre projet est totalement innovant parce qu'il n'existe pas encore sur le territoire même national, en tout cas sous cette forme. L'idée, c'est de pouvoir être réellement au-delà du transport d'un point A à un point B, mais de pouvoir aller au rendez-vous avec les personnes, de pouvoir leur donner accès à de l'autonomie dans le déplacement et donc de pouvoir proposer un réel accompagnement au-delà du transport, mais quelque chose d'éducatif et du développement à l'autonomie et au déplacement. Tout a commencé avec Positive. On a eu différents rendez-vous, que ce soit avec Amiens Métropole, le département, qui nous ont permis justement de viser juste, de pouvoir affiner nos objectifs et de se rendre compte des besoins du territoire. Et puis ensuite, que ce soit avec Positive ou d'autres comme Catalyse qui nous accompagne également sur Amiens, ou la BGE, qui du coup nous ont permis de rencontrer les banques, de rencontrer d'autres membres des élus du département de la Somme, qui aujourd'hui nous soutiennent et ça c'est un bel avancement.
Et aujourd'hui vous allez recevoir un prix.
Tout à fait, aujourd'hui on va recevoir un prix, donc on est très honorés et fiers d'être ici, on remercie encore Positive. On a aujourd'hui la société qui est ouverte, on attend des retours du service de l'Adréal qui nous octroie des autorisations d'exercer, donc avec des complications puisque c'est pas toujours évident d'obtenir des contacts auprès de ces services. Donc si jamais on m'entend et que on peut nous contacter, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, un grand plaisir d'être ici aujourd'hui.
Angélique, lauréate au Positive Award Hauts-de-France.
Je vais présenter mon parcours avec ce que j'ai eu avec Positive et je vais recevoir un prix pour mes compétences, ce que j'ai fait jusqu'à présent avec eux.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'accompagnement qui a été fait ?
Ils m'ont aidé dans les démarches pour ouvrir mon entreprise et ils ont été aussi présents pour moi dans le après l'entreprise. Et ils m'ont accompagné jusqu'à maintenant, ils m'ont encouragé et voilà.
Et quand vous avez eu cette idée, comment ça s'est passé pour vous ?
Quand j'ai eu cette idée, il y a eu beaucoup de questionnements, me dire si je serais capable ou pas. Et Positive m'ont écouté, m'ont orienté, m'ont motivé, ils ont été à mon écoute et ils se sont mis à ma place. Et ça m'a beaucoup aidé pour en arriver où j'en suis là maintenant.
Nous étions à la remise des prix de la cérémonie des Positive Awards Hauts-de-France qui s'est déroulée à la salle des conférences du village rue des Templiers à Lille. Reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Bonjour, je m'appelle Martin. Quand je suis à Léquin, j'écoute Radio Campus sur le 106,6. Et quand je suis à Berlin, j'écoute Radio Campus sur le www.campuslille.com.
Ville au quartier, des campagnes aux bourgades, l'idée du bien habillé fait son travail en brigade. On ne porte que de la marque qu'on arbore fièrement. On croit même qu'on se démarque alors qu'on vit conformément au modèle du 900, autre chose que du futile qui engraisse les puissants. Ceux qui imposent leur style, qu'est-ce que l'on peut bien prouver? En Lévis et en Lacoste, moi j'arpente le pavé. Avec un pull Lacoste, ça donne de quoi discuter. Plutôt que de parler du ciel, une voix, une facilité. Face au vide existentiel, bonjour, moi c'est Calvin Klein. Enchanté, moi c'est champion, et à part ça tout va bien.
On est tous les mêmes pions. Certains pions n'ont pas l'argent pour faire comme les vrais bourgeois, accéder au bonheur marchand. Procure autant de joie, se sert directement et les vitrines explosent. C'est plus drôle assurément, mais c'est quand même le respect de la clause qui dirige la population dans des ambitions faussées, la plonge dans l'obsession de ne jamais être dépassé. Sacro-sainte nouveauté que la religion des marchands doit sans cesse réinventer pour que l'homme ne devienne pas méchant. Que n'y ait que la mode comme facteur d'identité, que tous nos gestes, tous nos codes, ce que l'on possède soit limité. C'est une pieuse mission, acheter doit devenir un réflexe, ou alors c'est l'exclusion, tu seras mis à l'index. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme, ils font de la com et du gros son. Pour que tu consommes, si t'es un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son. Pour que tu consommes, si t'es un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Jalouseront les paumés à force de consommer frénétiquement. On finit par transformer jusqu'à l'amour les sentiments. Quand tu me parles, tu m'ennuies, je te zappe avec mon portable. Mes amis sont des produits, des bandes de mes humeurs instables. On consomme du relationnel, chaque bonheur est biaisé, même les plaisirs charnels doivent être rentabilisés. Il est là l'homme nouveau, l'homme unidimensionnel, qui se sert de son cerveau comme du dernier logiciel. La pour seule ambition de posséder du bien matériel, seul facteur d'intégration, en mode de vie officiel. L'homme du troisième millénaire sera le consommateur, frustré, envieux, un son amateur. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Il faut de la com et du gros son. Ou pour que tu consommes, si t'es un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Il faut de la com et du gros son. Ou pour que tu consommes, si t'es un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Il faut de la com et du gros son. Ou pour que tu consommes, si t'es un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme.
Allez, on se déplace. On se déplace, on marque des points. Il n'y a pas que la tête.
Bonjour, dans le cadre de Découvrons un village, je suis dans la commune de Saint-Yne, un village situé au sud de Compiègne dans l'Oise. Aujourd'hui, focus sur le club d'art martial qui a fêté ses 10 ans cette année, le Kick and Thai. Sébastien Abrunosa, président du club, nous présente l'association. Combien de licenciés, Sébastien, ici à Saint-Yne ?
Alors, on tourne à peu près à 80 licenciés par an. Il y a énormément de monde en début de saison et ça se calme un petit peu en fin d'année à cause des examens à passer, des brevets des collèges, des bacs, etc.
La tranche d'âge, environ quoi ?
Alors, on prend à partir de 6 ans quand les gens sont assidus et ça va jusqu'à 60 ans environ. On a autant de filles que de garçons pratiquement. Avant, on avait carrément très peu de filles et maintenant, c'est vraiment moitié-moitié pratiquement.
Vous pouvez préciser les jours et heures d'entraînement ?
Alors, les entraînements s'effectuent le lundi, mercredi et vendredi à 19h, sauf mercredi 19h15.
Alors, on va parler un petit peu technique. Est-ce que vous pouvez préciser aux auditeurs la différence entre la boxe thaï, le muay thaï et le kickboxing ?
Alors, le kickboxing, la différence avec le muay thaï, c'est que nous, on n'utilise pas les genoux ni les coudes. Mais on a le droit de taper également dans les jambes jusqu'au visage. La boxe thaï, on utilise les genoux. On a du corps à corps et on a le droit d'utiliser les coudes également.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline ?
Tout. La discipline, justement, la performance. Il faut avoir un mental pour pouvoir la pratiquer. La force, la puissance, la vitesse, le cardio. C'est beaucoup de choses en même temps qui font qu'on devient fort en boxe. Il faut être très assidu.
Est-ce que vous pouvez détailler, expliquer une séance ? Là, ça, je viens d'arriver, actuellement, il y a l'échauffement.
Alors, on commence la séance toujours par un échauffement où on fait augmenter le rythme cardiaque pendant un quart d'heure, 20 minutes, et on essaie de faire 10 minutes, un quart d'heure d'assouplissement. C'est très important de travailler la souplesse pour ne pas se blesser déjà et pour être capable de lever les jambes jusqu'au visage quand on met les high kicks. Après l'échauffement, on fait de la technique. La plupart du temps, et quand on prépare des championnats, on installe la plateforme pour préparer les combats en faisant des petits assauts.
Quel est le palmarès du club ?
Alors, le palmarès du club, c'est d'avoir une dizaine de champions de France en différentes catégories et plusieurs vainqueurs de Coupe de France également sur les 5 dernières années.
Vous combattez où ?
Alors, la plupart du temps, ça se passe en région parisienne. Savigny-le-Temple, Chaville et parfois à Soissons, qui a également un grand club de kickboxing.
Restez pas que sur le coup. Attention à la tête. Travail à distance. Deux fois. Allez, on y va, travail.
Sébastien, comment se porte la boxe thaï dans les Hauts-de-France ?
Le kickboxing dans les Hauts-de-France se porte très très bien. Nous, donc, on est compétiteurs, ça va faire à peu près 4 ou 5 ans. On nous regardait un petit peu bizarrement quand on arrivait sur les championnats parisiens, parce qu'évidemment, on ne nous connaissait pas. Pour eux, on était des campagnards. Et à force de gagner des titres, maintenant, ils nous connaissent et ils arrivent à situer Saint-Yne sur la carte.
Quelles sont les valeurs que le Kick and Thai Saint-Yne prône ?
Alors, les valeurs sont essentiellement le respect. Tout doit être basé dans le respect par rapport au coach, déjà dans un premier temps, et entre élèves. On veut que tout le monde se respecte, que tout le monde se dise bonjour, que tout le monde se dise au revoir, que tout le monde soit content de passer un bon moment ensemble.
On le disait en introduction, le club il a 10 ans. Est-ce qu'en 10 ans, la discipline elle a évolué ?
Elle évolue tout le temps, la discipline, parce qu'on invente toujours des nouveaux coups de pied, ça va toujours plus vite, plus fort, plus loin.
Alors, vous êtes rendu plusieurs fois en Thaïlande, en 2024 et en 2025. Dans quel but ?
Alors, dans le but d'aller dans des camps, car la Thaïlande, c'est évidemment la Mecque du Muay Thai, qui est également un sport de combat comme le kickboxing. Pour aller regarder des combats, il n'y a rien de mieux que d'aller en Thaïlande, ça ne vaudra jamais... les combats parisiens.
Vous êtes rendu où en Thaïlande ?
Alors moi je vais à Phuket, au Patong Maximum, Patong Stadium.
C'est comment les combats ? Il y a de l'ambiance je suppose ? C'est plein à craquer ?
Alors c'est plein à craquer, il y a énormément d'ambiance. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent pour défier les Thaïlandais. Et c'est ce qui met l'ambiance durant les combats.
Il y a aussi de l'argent. Je suppose qu'il y a, des paris qui sont faits sur les joueurs.
Il y a de l'argent, il y a des paris, il y a des petites sommes, mais il peut également y avoir des grosses sommes selon le palmarès des boxeurs.
Est-ce qu'il peut y avoir des incidents dans ce genre de combat ?
Il y a régulièrement des incidents, des chaos, des fractures. Fractures de nez, de bras, de tibia. C'est un sport qui reste relativement dangereux. C'est pour ça que la discipline est importante pour ne pas faire n'importe quoi.
Justement, est-ce qu'il y a un matériel adapté à la discipline ?
Oui, il faut le bandage pour les mains, il faut les gants à la bonne taille, protège-dents évidemment, et bien protéger ses parties intimes également.
Alors en 2023, vous avez reçu le trophée du Picantin de la meilleure équipe par l'Office des sports de l'agglomération de Compiègne. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce prix ?
Alors c'est un honneur de recevoir cette récompense, sachant qu'en plus il y avait des gros clubs comme le club de rugby compiénois qui était en face de nous. Donc on est passé devant tout le monde, c'est vraiment une fierté parce qu'il ne faut pas oublier que Saint-Yne c'est une petite commune. On a à peu près 1000 habitants et on part vraiment de très très loin. Donc dès qu'on a un prix, c'est extraordinaire pour nous.
Quels sont les liens avec la mairie ? Monsieur Desmoulins vous soutient ?
On a toujours monsieur le maire Jean-Pierre Desmoulins qui nous soutient. On est toujours en contact téléphonique. Je l'informe régulièrement des résultats des championnats et il a toujours été là pour nous soutenir.
Est-ce que l'association a des projets, des ambitions pour cette fin de saison ou pour la saison qui suit ?
Alors, les projets qu'on a déjà, on a le championnat de France de kickboxing le week-end du 1er juin. Et notre ambition, c'est de faire rentrer deux ou trois de nos boxeurs en équipe de France, en équipe nationale, pour pouvoir exécuter un championnat d'Europe par la suite.
Donc, championnat d'Europe, dans quel pays vous pouvez éventuellement concourir ?
La plupart du temps, c'est dans les pays de l'Est et dernièrement en Italie.
Est-ce qu'il y a un lien entre le hip-hop, le rap et le kickboxing ?
Alors oui, il y a toujours eu un lien pour moi personnellement. C'est de la musique qui permet de me motiver, donc de motiver mes boxeurs. C'est toujours plus facile de se motiver avec un fond sonore hip-hop plutôt que des slow, évidemment.
On écoute quoi ? Du DMX, du rap français ?
On peut écouter du DMX, on peut écouter du booba, des musiques à l'ancienne. On aime ça, ça nous pousse à aller plus loin. Pendant qu'on écoute la musique, on pense moins à la douleur.
Vous écoutez actuellement un reportage réalisé au gymnase de Saint-Yne, une commune située dans l'Oise. Les lundis, mercredis et vendredis soirs, l'association Kick and Thai Saint-Yne enseigne et encadre la pratique de la boxe thaï, du muay thaï et du kickboxing. Amjan Enache est licencié au Kick and Thai Saint-Yne. Il nous présente la discipline.
Eh bien, du coup, comme l'a dit Yann, moi, c'est Amjad Enache. Je suis licencié au club du Kick and Thai depuis maintenant, je dirais que ça fait 10 ans, bah, depuis sa création en 2015. Et ce club aussi m'a permis de devenir champion de France de kickboxing et en 2022. Et aussi de participer à la compétition de full contact en 2023, à laquelle je suis arrivé vice-champion.
Alors, comment on devient champion dans cette discipline, justement ?
Ah, c'est une question compliquée. C'est un mental ? Et beaucoup de rigueur, être attentif, être présent au cours. Moi, je dis que le mental, ça fait beaucoup, hein. Aussi, il faut des coachs qui sont investis, qui nous permettent de nous pousser vers le haut, sans forcément nous mettre la pression ou quoi que ce soit. Mais après, c'est au bon vouloir de chacun. Je pense qu'il y a une grosse partie de personnel qui fait que si on a la mentale ou pas, de s'engager dans un effort physique aussi intense. Et aussi bah, une bonne partie qui est faite par les coachs, hein, qui doivent nous mettre à l'aise sans pour autant nous faire trop rester dans notre zone de confort et tout en nous permettant de progresser là où on est moins bon et de peaufiner là où on est déjà très bon.
Mais comment on devient champion ? C'est-à-dire que c'est plusieurs compétitions, vous avez fait plusieurs combats pour avoir ce titre ?
En fait, notre club, il est affilié à une fédération, donc la FKBDA, la Fédération de Kickboxing et Disciplines Associées. Donc en fait, c'est cette fédération-là qui organise les différents championnats. Voilà, c'est des championnats donc, voilà, qui sont organisés en interne de cette fédération. Donc quand on dit qu'on est champion de France en telle ou telle catégorie, c'est par rapport à notre fédération. En fait, on est plus exactement, on est champion dans notre fédé et dans notre catégorie aussi.
On pose la tête sur le genou. 1, 2, 3, 4...
Vous êtes coach aussi également au sein de l'asso ?
C'est ça. En fait, plus exactement, je suis assistant coach. En fait, là, je suis en train de passer, mon diplôme et j'ai eu donc mon diplôme en janvier, mon diplôme d'assistant coach. Et le 7 juin, je vais passer l'examen officiel pour devenir entraîneur officiel.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'entraîner ? Partager vos connaissances, voir les élèves progresser ?
Bah, je dirais que c'est un peu tout ça en fait. En fait, je trouve que j'ai eu droit à des coachs qui ont été vachement présents pour nous, qui nous ont vraiment poussés. Enfin, il n'y a pas que moi qui ai été champion. Hein. Ce club a sorti beaucoup de champions dans beaucoup de catégories différentes. En fait, j'avais accumulé assez de connaissances pour pouvoir les transmettre à d'autres. Et ça, j'adorais en fait ce principe d'accueillir des gens d'horizons différents, de taille, d'âge, de sexe différents. On a des hommes, des femmes, et je crois que notre plus vieux licencié avait dans les 60 ans. Voilà, on a un club qui accueille des gens de 6 à 60 ans, hommes, femmes. Je trouve ça impressionnant de pouvoir transmettre un savoir aussi complexe, parce que c'est un art martial, ça reste avant tout un art, de pouvoir transmettre cet art à d'autres gens en fait.
Comment vous faites pour éviter les blessures, même si parfois elles sont inévitables ?
Ah, pour éviter les blessures, bah, c'est pour ça qu'il y a des règles. Les règles ne font pas tout, hein. Pour éviter les blessures, généralement, il faut un bon échauffement, de très bons étirements aussi, parce que les claquages, ça arrive vite. Échauffement, étirement, c'est le principal. Et aussi, respecter les consignes que nous donnent nos coachs. Le principe, c'est justement de ne pas se blesser quand on a des compètes, qu'on se prépare, tout ça. Ou même, on a beaucoup d'étudiants, d'élèves qui viennent en tant que loisirs. Donc, le but, c'est pas de les blesser. Donc, si les élèves écoutent ce qu'on leur dit, bah, généralement, ils ne peuvent pas se blesser. Après, c'est toujours inévitable, hein, une petite blessure, un bleu, un bobo.
Est-ce qu'il y a des champions qui vous ont inspiré, marqué, que ce soit dans les Hauts-de-France ?
Ouais, il y a un champion contre qui je me suis déjà battu. J'avais déjà fait un combat contre lui. Il s'appelle Dan Nguyen, c'est un Français. Et lui, il me semble qu'il a été champion d'Europe et même champion du monde en... Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est en kickboxing aussi. Et j'ai eu l'occasion de faire un combat contre lui et j'ai trouvé ça impressionnant, l'aisance qu'il avait à placer ses coups. Sans mentir, j'étais sa marionnette. Et j'ai trouvé ça impressionnant, l'aisance qu'il avait en combat, sans pour autant rentrer dans l'agressivité, sans vouloir me blesser. Tout ce qu'il voulait, c'était placer des beaux coups propres. L'aisance qu'il avait sur le ring, le ring lui appartenait et je trouvais ça génial. Cet homme est incroyable.
Si les auditeurs hésitent à pratiquer cette discipline, comment vous pouvez les persuader là en une phrase ou deux ?
Bah, je dirais que nous, en tout cas dans notre club, après dans d'autres clubs c'est différent, mais notre club c'est principalement du loisir, donc c'est au bon vouloir des gens. Le principe c'est pas de se blesser, c'est surtout de pratiquer une activité physique qui nous plaît, sans rentrer dans forcément le compétitif et du coup la difficulté grandissante que peut offrir la compétition ou même tout simplement certains autres clubs qui vont vouloir être tout de suite plus agressifs dans leur façon de faire.
Des ambitions pour cette fin d'année ou peut-être pour les années qui suivent ?
Pour ma part, ce serait d'obtenir mon diplôme d'entraîneur et aussi pouvoir former plus de champions potentiels et éventuellement se faire connaître à une échelle un peu plus grande, même si on est déjà assez connu, on va dire, à notre échelle.
Position.
C'était Yann Barré pour Radio Valois-Mulsien. Dans le cadre de Découvrons un village, j'étais au gymnase de Saint-Yne, une commune située dans l'Oise. Les lundis, mercredis et vendredis soirs, l'association Kick and Thai Saint-Yne enseigne et encadre la pratique de la boxe thaï, du muay thaï et du kickboxing.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Salut, c'est les Chasse-Patates sur Radio Campus.
On vous donne rendez-vous le 4 juillet au Grand Sud pour le Grand Bal des cyclistes, la veille du départ du Tour de France.
Parti avec le sourire.
Venez découvrir le tout nouveau spectacle des Chasse-Patates qui vous emmèneront tutoyer les sommets avec des invités et des surprises plein la musette.
J'ai le moral dans les soquettes.
Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur le site du Taillet, letaillierproduction.com et sur ticketmaster.fr.
C'est une fille moderne.
appris. Porté par le vent, soufflé par les esprits. Mon clan, je l'ai choisi. J'ai redessiné ma ligne de vie. Chante, chante, c'est un song. La route est longue et mon âme vagabonde. Chante, chante, c'est un song. Roule dans mes veines le sang des Cheyennes. Étranger au bord d'un champ de blé, ma peur, je l'ai jetée dans la fumée bleue d'un feu sacré. Chante, chante, c'est un song. La route est longue et mon âme vagabonde. Chante, chante, c'est un song. Roule dans mes veines le sang des Cheyennes. Mais danse, danse, car il est temps d'entrer en résistance. Danse, danse, c'est le moment de réveiller les gens à chaque seconde. La terre gronde. Le bonheur m'a souri dans les yeux d'une indienne sous l'arbre de vie. J'ai prié les esprits, emmené ma peine et fait tomber la pluie. Chante, chante, c'est un song. La route est longue et mon âme vagabonde. Chante, chante, c'est un song. Roule dans mes veines le sang des Cheyennes. Mais danse, danse, car il est temps d'entrer en résistance. Danse, danse, c'est le moment de réveiller les gens à chaque seconde. La terre gronde. J'ai vu des tribus et des mondes perdus que l'on un nouveau soleil et ton cœur et d'autres merveilles. Danse, danse pour la pluie ou pour le grand esprit. Mais danse, danse car il est temps d'entrer en résistance. Danse, danse, c'est le moment de réveiller les gens à chaque seconde. Mais danse, danse, car il est temps d'entrer en résistance. Danse, danse, c'est le moment de
À l'occasion du 400e anniversaire de sa mort, le musée de Flandre rend hommage à l'un des plus importants peintres du XVIIe siècle, Jan Brueghel l'Ancien. Bruno Laubert a rencontré Cécile Lafont, directrice du musée de Flandre, le 22 mai 2025 pour une présentation de la nouvelle exposition Brueghel et Van Balen, artistes et complices.
Cécile Lafont, bonjour.
Bonjour.
Tu nous proposes avec ton équipe l'expo Brueghel, artistes complices et Hendrik Van Balen.
Je partage le commissariat de cette exposition avec Yaël Sansalazar, qui en effet est historienne de l'art, spécialiste de la peinture flamande du XVIIe siècle, et plus particulièrement d'Hendrik Van Balen, justement. Cette exposition, on l'a dans les cartons depuis plusieurs années, ou plus particulièrement, on avait depuis plusieurs années l'envie de commémorer le 400e anniversaire de la mort de Jan Brueghel l'Ancien, qui s'est éteint en 1625. Donc 2025, forcément. Et donc ça, cette idée, elle était là depuis très longtemps, hein, même avant que je prenne la direction du musée. En 2021, je suis commissaire de l'exposition La dynastie Franken et je rencontre Yaël Sansalazar qui écrit dans le catalogue de La dynastie Franken. Le courant passe bien entre nous deux. Et puis en 2022, quand je reprends la tête du musée, Je reprends aussi le projet de faire une expo liée à Yann Bruegel l'Ancien pour son 400e anniversaire. Et je la contacte en me disant « j'aimerais beaucoup travailler avec elle sur ce projet-là parce que je sais qu'elle est spécialiste de peinture flamande de cette époque et qu'à mon avis, ça va lui plaire ». Donc, je la recontacte et puis, de fil en aiguille, on discute du projet de l'expo Bruegel. Dans nos conversations, on se dit que ça va être compliqué. Je vais être très honnête, hein, ça va être compliqué de s'atteler plutôt à un artiste aussi célèbre que Yann Bruegel l'Ancien pour le musée de Flandre. D'une part, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Il a un catalogue raisonné, tu vois, les 4 tomes qui sont sur mon bureau, qui font 400 pages chacun. Donc ça, c'est son catalogue raisonné qui date de 2010. Donc en plus, tu vois qu'il n'est pas très vieux. Donc il a été très étudié, ce peintre, très exposé. Et du coup, est-ce qu'on va être capable d'apporter des nouveautés, tout simplement? Et puis finalement, est-ce que c'est aussi là la raison d'être du musée de Flandre que de présenter une énième expo sur un peintre aussi célèbre que Yann Bruegel l'Ancien? Est-ce que finalement, on ne va pas nous reprocher de nous éloigner de ce qui a fait notre succès, c'est-à-dire la redécouverte des peintres flamands oubliés? Donc du coup, très vite, c'est Yael qui me propose, qui me dit « Écoute, pourquoi pas intégrer Hendrik van Balen à l'exposition, puisqu'il a été le plus grand collaborateur de Yann Bruegel l'Ancien ?»
On va dire que c'est un de ses complices, Hendrik van Balen.
Ah bah oui, parce que...
Qui est resté un peu dans l'ombre, malheureusement.
Il n'est pas resté dans l'ombre de son vivant, parce que de son vivant, il était aussi célèbre que Bruegel. C'est ça qui est marrant. Et ce qui est intéressant, en effet, c'est qu'on a voulu utiliser le mot complice, parce qu'au-delà de leur collaboration de travail, il y a une vraie amitié qui se met en place. À la mort de Yann Bruegel, c'est Hendrik van Balen et Rubens qui deviennent tous les deux tuteurs des enfants mineurs de Yann Bruegel l'Ancien. Donc tu vois, on ne laissait pas la garde de ses enfants à n'importe qui. Ensuite, on a d'autres exemples qui montrent leur amitié. Par exemple, on a des sources qui viennent d'archives qui nous disent qu'en 1612, Bruegel, Rubens et Van Balen partent tous les trois, à Amsterdam pour un voyage d'études où ils vont rencontrer d'autres peintres. Donc ça, c'est pareil. On ne voyage pas avec son pire ennemi. En général, on voyage plutôt avec des gens qu'on apprécie.
Il y a une restructuration complète du musée départemental de Flandre pour accueillir cette expo. Il y a eu un énorme travail de tes équipes de maintenance, de toutes les équipes. En fait, tout le monde était sur le pont.
Tu as raison de le souligner parce qu'une exposition aussi importante, tu imagines bien qu'on ne peut pas le faire tout seul ou juste Yael et moi. C'est vraiment toute l'équipe du musée qui a été mobilisée. Tout le premier étage a été complètement transformé. Là, on peut dire merci à nos deux agents techniques, parce qu'ils sont que deux, Jean-Guillaume Dufour et puis Nicolas Hernandez, qui ont tous les deux, à eux deux, complètement transformé ce premier étage en montant des murs, en s'occupant de la peinture, de l'accrochage, de l'éclairage. Enfin, ils ont vraiment tout réalisé.
L'origine des toiles par elle-même, il y a eu un recensement, il y a eu des demandes à des musées, à des particuliers?
Alors oui, là c'est pareil, ça a été un long travail de négociation. Il y a des centaines de demandes de prêts qu'on a envoyées. Hein. Moi j'ai commencé à envoyer les demandes de prêts en 2022, donc tu vois, il y a 3 ans de ça. Et ça a été difficile, ça a été très difficile, notamment pour obtenir les prêts de Yann Bruegel l'Ancien, parce que c'est un artiste qui est très célèbre.
Très coté aussi.
Voilà, exactement. Et puis les musées rechignent un peu à prêter les tableaux de Yann Bruegel. Donc au départ, pendant longtemps, j'avais un peu peur parce que je me disais, mais mince, on va faire une expo Bruegel et Van Balen et on va pas avoir beaucoup de tableaux de Bruegel. Et puis finalement, je sais pas par quel miracle ça s'est un peu décanté. Faut dire que très vite aussi, je me suis tournée auprès des collections privées. Parce que finalement, Yann Bruegel l'Ancien, il est extrêmement collectionné depuis son vivant. Et il y a beaucoup de ses tableaux qui sont en main privée. Et notamment, ça tombe bien pour nous, parce que ce sont des collectionneurs belges souvent, belges ou anglais. Et du coup, c'est pas très loin et c'est facile à aller chercher.
Nouvelle exposition, Bruegel et Van Balen, artistes et complices. Bruno Laubert est en compagnie de Cécile Lafont, directrice du musée de Flandre à Cassel.
Le but de l'expo par elle-même, c'est immerger le public dans l'univers des peintres.
Oui, c'est ça. C'est essayer. Alors, tu vois, là, c'est pareil. On s'est dit avec Yaël que ça allait être compliqué peut-être pour le grand public de comprendre qui faisait quoi. Parce qu'on présente deux peintres. Donc, ce n'est pas forcément évident de s'y retrouver. Donc là, on a voulu un plan très didactique, très simple. Première partie, on découvre l'univers de Jan Brueghel. On découvre ce qui a fait sa réputation, c'est-à-dire sa touche miniaturiste. Tu sais, il va vraiment très loin dans les détails. On a l'impression des fois qu'il peint avec juste trois poils sur son pinceau. Et puis surtout aussi, c'est son talent de coloriste. On a l'impression que ses tableaux sont presque rétro-éclairés tellement ils sont lumineux. Ça tient au support de cuivre qu'il utilise, mais je vais trop loin. Bref, une partie consacrée à Jan Brueghel, une partie consacrée à Hendrik van Balen. Comme ça, le public arrive à comprendre ce que l'un faisait et ce que l'autre faisait. Et une troisième partie sur leur collaboration. Qu'est-ce que l'un et l'autre vont s'apporter mutuellement, en fait.
Cette expo, par elle-même, elle nous raconte l'histoire de nos grands Pays-Bas et l'histoire de Flandre.
Oui, c'est vrai que c'est qu'au travers leur réalisation. Donc tu vois, aujourd'hui, il y a environ 80 tableaux qui leur sont attribués à tous les deux. Au travers de leur collaboration, déjà, on découvre une manière de travailler qui est très différente, de ce qu'on connaît aujourd'hui dans le monde artistique. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est souvent, on porte au nu l'œuvre unique, l'œuvre faite par l'artiste seul contre le reste du monde. Tu sais, l'artiste un petit peu porté au nu. À Anvers, au XVIIe siècle, le principe de collaboration, il est poussé à l'extrême. C'est-à-dire qu'au sein de la guilde des peintres, tu sais, la guilde de Saint-Luc, ils se réunissent, tous ces artistes, et ils travaillent ensemble. D'ailleurs, ils ont des liens familiaux, souvent ils marient leurs filles, ils sont parrains des enfants, etc. Et du coup, on a une vraie émulation très forte qui se fait à Anvers, aussi parce que Anvers, c'est une plaque tournante, c'est un grand port tourné vers l'extérieur et que c'est vraiment une scène artistique majeure au XVIIe. Donc, ils se rencontrent, ces peintres, et puis ils collaborent. Et ce principe de collaboration, c'est aussi expliqué par une hyper spécialisation. À l'époque, à Anvers, les peintres vont se spécialiser dans le paysage, dans les personnages, dans les natures mortes. Et donc, forcément, ils ont besoin de se
rencontrer,
de travailler ensemble pour réaliser des peintures complètes.
Si on a besoin d'une excuse, les 400 ans de la mort de Brueghel, c'était le moment de le faire.
Ah oui, évidemment. Évidemment. Bon, on n'avait pas vraiment besoin d'excuses, en vrai, parce qu'on aurait pu la faire... quand on voulait cette exposition, parce que finalement, elle permet de mettre en lumière, au travers le travail de Brueghel, de mettre en lumière un peintre qui complètement est sorti des radars, c'est Hendrik van Balen.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on accroche le dernier tableau et qu'on se dit, ça y est, c'est le début d'une expo qui va durer jusqu'au mois de septembre, de l'émotion?
Ah oui, bien sûr, oui. Surtout sur cette exposition en particulier, parce que ça a été un long chemin, passionnant. C'est vraiment un projet qui fédère une équipe aussi, tu vois, on a senti que tout le monde était investi et ça c'est beau et c'est intéressant aussi. Et puis ça a été la fin de plein de galères, pas des grosses galères, mais des petits problèmes à régler. Tu sais, on dit souvent qu'une exposition, c'est une suite de renoncements. Parce qu'au départ, t'imagines une expo avec forcément les tableaux les plus intéressants, etc. Puis tu n'obtiens pas tout parce qu'il y a des fois les musées refusent de prêter ou alors le tableau n'est pas en assez bon état, on n'a pas les moyens de les restaurer. Enfin, il y a plein de raisons qui...
Il y a des tableaux qui ont été restaurés avant l'expo.
Ah oui, beaucoup, beaucoup. Comme je disais samedi dernier, ce qui est intéressant, cette exposition, c'est qu'elle va montrer des œuvres originales et inédites. J'ai au moins trois arguments. Les premières, c'est que il y en a beaucoup qui viennent de collections privées, comme je le disais, et donc elles ne sont jamais montrées. Ensuite, il y en a beaucoup qui, jusqu'à cette exposition, n'étaient pas attribuées à Hendrik van Balen. Et donc forcément, elles n'étaient pas connues sous la terminologie Hendrik van Balen. Ça, c'est Yaël Sansalazar qui a fait un gros travail de réattribution de certains tableaux. Le troisième argument, c'est qu'en effet, on a mené des restaurations fondamentales, donc très importante sur certains tableaux de Van Balen, parce que là encore, ça s'explique par le fait qu'il n'a intéressé personne jusqu'à aujourd'hui.
Il y a un énorme dynamisme du musée de Flandre, il y a l'expo, mais il y a aussi des activités annexes qui viennent se greffer à ces expositions.
Oui, 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 tout à fait, tu as raison qu'avec l'ouverture de cette expo, c'est aussi le début d'une nouvelle programmation autour de cette exposition, justement. Et on va retrouver des rendez-vous plutôt qu'on avait déjà mis en place sur les précédentes expos et qui fonctionnent bien, qui ont trouvé leur public, comme c'est le cas, par exemple, des cours du soir pour adultes. Ça, on est content parce que ça marche bien.
Les visites sensorielles.
Les visites sensorielles pour les enfants, les 0-3 ans, par exemple. Les cours de yoga en lien avec de la médiation dans les salles du musée, ça fonctionne aussi très bien. Parallèlement à cette programmation récurrente, tu vois, qui revient d'exposition en exposition, on a aussi mis en place une programmation spécifique, spécialement pour l'exposition, pour le public adulte et pour les scolaires. Donc on a créé des nouvelles trames de visite pour les scolaires, par exemple, pour coller au mieux à l'exposition. Et puis après, pour le grand public, on a aussi mis en place des rendez-vous avec un peu de spectacle vivant. On continue à en proposer. Par exemple, on s'est dit que c'était intéressant de partir du principe des duos, vu que Bruegel et Van Balen forment un duo. Du coup, on va proposer deux duos au cours de cette expo, un duo un peu insolite entre du breakdance et le concert d'Astray. Un soliste du concert d'Astray qui va venir faire un peu d'impro d'ailleurs, donc ça va être vraiment très chouette, ça c'est au mois de juin. Et puis on a un autre duo entre poésie et contorsion.
Je vois que tu nous rappelles, avant de se quitter, les dates.
L'exposition, elle sera visible donc, du 17 mai, donc depuis samedi dernier, jusqu'au 28 septembre.
Cécile, grand merci pour ton accueil qui est toujours chaleureux.
Merci à toi Bruno.
C'était Cécile Lafont, directrice du Musée de Flandre. Une présentation de la nouvelle exposition Bruegel et Van Balen, artistes et complices. Entretien réalisé par Bruno Lebert. Montage Koulibaly Daouda. Pour Radio Élan Spiel.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous pouvez écouter les programmes de Radio Campus sur le 106,6 MHz à Villeneuve-d'Ascq ou www.campuslille.com à Juneau, en Alaska.
Du glycéron hydratomoneux ammoniacal, du bichlorhydrate mylénique officinal, de l'orthodioxybenzène autocoférol, du gaz oxypropanédiol en ampoule, de la binophénisulfonate amphétamine, de l'hexachlorocycloïque sans de l'acide aline isopropyl barbiturique, de l'éthervazine ammoniocotyl phosphorique, de l'acétylaménéphényl arsinazole, du gaz oxypropanédiol en capsule. Rien ne vaut, je le proclame, les vieux remèdes de bonne femme. Mon grand-père, d'un geste fier, en sortait de sa tabatière. Papa guettait estafette, en avait dans sa musette. Et quand j'ai passé mon bac, je trimballais dans mon sac. Du silicate anhydrique de magnésium, du quoi du sulfo gaïacolate de potassium, du glycéron hydratomono ammoniacal, du bichlorhydrate mylénique officinal, de l'orthodioxybenzène autocoférol, du trazoxypropanédiol en ampoule, de l'aminophénisulfonate amphétamine, de l'hexachlorocycloïque sanesculoside, de l'acide aline isopropyl barbiturique, de l'éthervazine ammoniocotyl phosphorique, de l'acétylaménéphényl arsinazole, du trazoxypropanédiol.
pas un idiot en capsule. Et si vraiment ça ne va pas mieux, pas mieux, pas mieux, je prends deux ou trois aspirines et un sucre.
Here I am.